Présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Junier Jean-Pierre. Film intérieur, production, mise en scène, Junier Jean-Pierre. Plus tard, elles sont toutes les deux dans la salle à manger à dîner. Sylvie lui demande « Pourquoi toutes ces gentillesses ? Pour moi qui vous suis qu'une étrangère, au fait. »
« Comme ça, j'aime bien rendre service. Et puis, entre femmes, il faut bien s'entraider. Vous pouvez rester ici le temps que vous voudrez. Vous êtes chez vous. »«
Merci. Vous vivez seule ? » ?»«
Oui, depuis la mort de mes parents. Et vous ?»
Je me suis mariée, mais je me suis levée sauvée de chez moi. Mon mari est une brute qui me séquestre.
Les hommes sont tous terribles, ma chérie. Dis-toi bien qu'il n'y a qu'une femme qui peut comprendre les femmes.
Dans le parc, bras dessus, bras dessous. Sylvie se sent bien. Ça faisait si longtemps qu'elle n'avait pas mangé aussi bien et à sa faim. Elle est propre, elle a presque plus peur. Tout d'un coup, elle se sent lasse. J'aimerais aller me coucher. Je suis un peu fatiguée.
C'est normal, ma chérie. Allons, nous coucher.
Elle se retourne à la maison. S'en retourne à la maison. Accompagner Sylvie jusqu'à la porte de sa chambre.
Bonne nuit, ma chérie. Elle l'embrasse sur la joue. Que tu as la peau douce. Ne veux-tu pas que je t'aide à t'endormir?
Pas la peine. Je suis déjà... Je dors déjà. Tu es très gentille.
Elle entre dans sa chambre. Elle se déshabille et se couche. Elle s'endort de suite. Elle est réveillée par la porte qui s'est ouverte.
Voit qu'il fait grand jour. Arrive avec une toute petite chemise de nuit transparente blanche avec un plateau pour le petit déjeuner, Betty.
Bien dormi.
Oui, merci. Betty pose le plateau sur le lit.
Mais il ne fallait pas, j'aurais descendu dans la salle à manger.
Mais non, tu es très fatiguée. As-tu passé une bonne nuit?
Oui, j'ai bien dormi.
Tant mieux. Il n'a pas eu froid.
Elle met la main sous les draps et lui touche le corps.
Non, je le vois. Tu as la peau très douce, ma chérie.
Après avoir déjeuné, elle a fait lever Sylvie.
Tu vas prendre ton bain.
Oui.
Alors, allons.
Et elles vont à la salle de bain. Sylvie ouvre la porte. Betty fait le geste de rentrer. Sylvie lui dit,
j'aime mieux être seule.
Entre amis. Bon, que tu es pudique, je te laisse.
Et elle la laisse.
Sylvie reprend des forces. Passe des jours délicieux avec Betty. Il lui arrive de trouver Betty très excitée et toujours à vouloir la toucher, caresser. Elle lui dit constamment,
« Mais c'est mamie, n'est-ce pas ?»
Elle passe leur temps à se promener, à lire à haute voix, et Betty lui montre ses chiens. Elle adore les chiens. Plus ils sont gros et terribles, plus elle les aime. Sylvie, elle en a un peu peur. Qu'elles ont un peu, disons, trop bu de champagne, elles se sont avachies toutes les deux sur le divan. Betty se met à la caresser.
Que tu as un joli corps, ma chérie, ma très belle chérie, une belle poitrine aussi.
Je suis lasse,
mais j'aime pas beaucoup qu'on me touche.
Pourquoi? Entre femmes, l'on peut.
Et puis si tu crois que les hommes entre eux...
Elle lui met la main sur la cuisse et lui dit,
si tu veux, je connais des jolis.
De dégoût, Sylvie se lève et lui dit,
je crois que vous avez trop bu. Bonne nuit.
Et elle sort du salon.
son lit, elle réfléchit à tout ça et se dit « Vaut mieux que je m'en aille, autrement elle va trop s'attacher à moi. »
Le lendemain matin, elle se lève, s'habille. Lorsque Betty entre comme tous les jours, lui apporter le petit déjeuner,
tu es déjà habillée, ma chérie?
Oui, j'ai décidé de partir. J'ai suffisamment profité de ton hospitalité.
Oh, mais non!
Elle pose le plateau sur la table et lui dit:
mais non, il faut que tu restes. Ne sommes-nous pas bien ensemble?
Je ne dis pas non, mais je dois partir.
Et moi? Tu me laisses seule? Que vais-je devenir?
Moi qui t'aime tant.
Non, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas me laisser.
Elle tremble toute. Sylvie lui dit: calmez-vous, Betty. Ne me mettez pas dans cet état. Ne me mettez pas dans un état pareil.
Bien sûr, tu ne peux pas comprendre. Mais que vais-je faire sans toi? Et notre amitié? Pense à notre amitié. Notre amitié, pour moi, c'est beaucoup, beaucoup. Tu ne peux pas savoir.
Oh, que si. Mais il faut me comprendre. C'est impossible pour moi d'accepter ton amitié. Je ne peux pas. Cela me fait de la peine, mais je ne peux pas. C'est impossible. C'est pour cela que je pars.
Non, je ne peux pas. Je ne peux pas me laisser après tout ce que j'ai fait pour toi.
Elle court vers la porte.
Elle court vers la porte et écarte les mains. Sylvie, surprise, va vers elle.
Et elle lui dit: tu ne vas pas faire la même chose que mon mari. Me séquestrer, non? Si tu crois que l'amour s'apprivoise comme les oiseaux en cage.
Je ne veux pas que tu partes. Non, je ne veux pas.
Betty, c'est ridicule tout ça. Sois raisonnable et laisse-moi partir.
Non.
Alors tu veux qu'on se quitte fâché? C'est ça que tu veux?
Non, je veux que tu restes. Écoute, si tu veux, je ne te toucherai plus.
Laisse-moi partir. C'est ridicule.
Elle essaie de l'attirer par la sortie de la porte. Betty se défend. Et d'un geste brusque, elle fait tomber à terre sur lui.
Tu ne partiras pas.
Elle sort de la pièce en courant. Ferme la porte à clé. Sylvie se relève. Et court à la porte. Tape du poing.
Ouvrez. Arrête cette comédie. Si tu ne vois pas, ce sera fini entre nous.
Pas de réponse. Il tape encore une fois à la porte. Crie, au secours, ouvre. Et de violence, elle va à la fenêtre.
L'ouvre. C'est très haut. Et puis, il n'y a rien pour se tenir. Elle referme la fenêtre.
Quel gars cette pluie! Je lui arrache les yeux quand je la reverrai. Elle s'assoit sur une chaise.
une heure plus tard, on frappa à la porte. Elle va vers la porte.
Qui est-ce? C'est moi, madame. Vous allez bien?
Non, elle m'a séquestré, cette vieille folle.
Ne vous en faites pas. Faites pas de soucis. Je vais m'en occuper.
Et un quart d'heure plus tard, la porte de la chambre s'est ouverte.
Apparaît la jeune bonne de 20 ans, blonde et douce.
Sylvie accourra à elle.
La femme de chambre lui dit : j'ai fauché les clés à cette bique pendant qu'elle prenait son bain. Bien fait pour elle. Elle a essayé avec moi, mais je lui ai flanqué une de ses raclées et lui ai dit que j'allais la dénoncer à la police. Allez maintenant, il faut partir vite.
Merci. Et les chiens?
Ils sont dans le chenille.
Sylvie se sauve.
Arrivée dans le parc,
elle entend derrière elle une porte qui s'est ouverte.
Et Betty qui lui court après.
Sylvie, non!
Sylvie court, court, court vers la sortie du parc. Betty descend les escaliers en vitesse, passe par le service pour aller aux chenilles, pour ouvrir les portes des chiens. Elle le fait.
Les chiens se ruent dehors et courent après Sylvie, qui a peur. Les chiens vont la rattraper.
Et tout à coup, où elle franchit le portail, elle entend derrière elle des cris. Elle se retourne et voit effrayée la pauvre bonne attaquée par les chiens qui la font tomber et foncent dessus.
Sylvie se retourne pour sauver la pauvre bonne. La pauvre bonne lui crie :
partez, partez, ils arrivent.
Si vous partez pas de suite, vous êtes perdus à jamais.
Les chiens se ruent sur Sylvie.
En plus de Sylvie, il court vers elle. Elle court et court vers la sortie.
Elle entend des cris. Les cris de la bonne. Les chiens. Et se sauve en courant.
Pendant des heures.
Je
par hasard. Elle arrive vers une gare. Heureusement qu'elle a un peu d'argent. Elle entre dans la gare. C'est une petite gare de campagne. Va au guichet et demande:
j'aimerais une place pour Sydney.
Oui, bien sûr, dans un quart d'heure.
Une place en première.
Et 8 heures plus tard, elle est à Sydney. Elle décide de partir pour la France le plus vite possible. Elle va directement à l'aéroport. Demande une place pour Paris.
Quelle place? Ce que vous avez.
Place touristique?
Oui, c'est bon.
Dans une semaine?
Pas plus tôt?
Non, impossible.
Bien, passeport s'il vous plaît.
Elle lui montre son passeport.
La femme regarde et regarde un tableau. Elle lui dit: une seconde mademoiselle.
Elle se retire et revient avec 2 hommes en civil. Des hommes grands, forts, blonds, costume marine. L'un des hommes lui demande:
vous êtes bien madame Sylvie?
Oui monsieur.
Madame, nous sommes vraiment navrés mais vous devez nous suivre.
Mais pourquoi? Que se passe-t-il?
Nous avons un avis de recherche. Suivez-nous.
Elle les suit.
Il arrive dans un bureau d'étage de l'aéroport. Entrez. Elle entre. Asseyez-vous. Elle s'assoit.
Et un homme lui dit: votre mari a fait une demande pour que l'on vous recherche. Vous avez disparu sans rien dire.
Puisque vous êtes recherché par la police, vous ne pouvez pas quitter le pays.
Et que vais-je devenir?
On va vous rendre à votre mari.
Ah non, alors là, surtout pas, je refuse. Je tiens absolument à ma vie. Mon mari est fou.
Je suis vraiment navré, madame, mais il faut attendre ici. Nous allons faire une enquête.
Et où vais-je aller?
Nous allons vous mener à un hôtel où vous attendrez bien sagement.
Choisissez.
Ou on vous ramène à votre mari, ou vous restez ici.
Je reste ici. Faites votre enquête.
Elle est menée dans un hôtel. On lui donne une chambre, chambre moderne. Et là, elle doit attendre. Elle reste 2 jours à attendre. Mais un après-midi, alors qu'elle prenait son petit déjeuner dans la chambre, on la frappait à la porte de la chambre. Elle ouvre. C'est son mari. Il la pousse et entre.
Enfin, je te retrouve. Partir comme ça, sans rien dire.
Tu te rends compte du souci que je me suis fait?
Assez joué. Tu rentres de suite avec moi.
Non, je ne veux pas.
Je ne veux pas rentrer avec toi. Je te quitte et rentre en France. Puis je demanderai le divorce.
Je mens pas. Je ne te laisserai pas partir.
Si tu ne me laisses pas partir, je porterai plainte contre séquestration.
Tu ne partiras pas. Tu ne porteras pas de plainte. Je t'en empêcherai. Allez, viens, entre avec moi.
Il en prend par le bras. Elle se défend. Il la gifle.
Elle recule. Il avance vers elle.
Tu vas venir avec moi.
Elle recule.
Non, jamais.
Sa main derrière elle touche la table.
Il est contre elle et fait le geste de la tirer par le bras. Elle sent sa main qui touche le couteau, le prend. Et lui en donne un coup dans le cou. Il la lâche, le sang gicle, ses yeux se fixent.
Il tombe à terre. La porte s'ouvre. Les domestiques ont entendu le bruit. Accourent.
Elle ne bouge pas. Des policiers viennent et l'entourent pour la mener. Elle est menée au poste de police. Le commissaire, c'est celui de la dernière fois qui l'interroge. Elle dit ce qui s'est passé, elle est menée en prison. Pendant qu'elle est en prison, on fait une enquête. Les gens sont du côté du mari. Vous pensez, une parisienne, vicieuse, coquette, le pauvre. Elle a dû se marier avec lui pour sa fortune, etc., etc. C'est surtout ses anciennes relations féminines qui l'attaquent le plus. Les domestiques disent, surtout le valet de chambre, un peu spécial. Le pauvre monsieur, toujours inquiet, parce qu'elle était vicieuse avec les hommes. À chaque fois, il lui faisait du reproche. Parce qu'il l'aimait, il la couvrait de cadeaux. Somptueux. Des cadeaux de reine. Elle était choyée, aimée. Mais elle, cette garce, avait le sang mauvais, comme ces parisiennes, ces françaises. Il y avait constamment des disputes à cause d'elle, de sa façon de se comporter. Avant de fuir, elle a failli l'empoisonner. Vous vous rendez compte? Le pauvre monsieur, si bon, l'empoisonner. Et lui, si bon, qui voulait la reprendre malgré tout, parce qu'il croyait, en bon chrétien, qu'elle n'était pas entièrement mauvaise, et que si on lui faisait du bien, elle serait bonne. Faire du bien pour le mal. Quel homme, ce pauvre monsieur, et elle, cette garce de Satan. Je suis sûr que la scène où elle l'a tué avec le couteau, elle l'avait préparé pour le mettre en colère et le tuer en disant qu'il l'avait violée, violentée, vicieuse comme elle est. Cela ne m'étonnerait pas. Ça se passe très mal pour elle. Sa famille qui apprend ça s'en inquiète. Ses parents vont à Sydney témoigner. Ne peuvent la voir, mais témoignent. Benoît et sa femme voient que durant le procès, les gens sont butés contre leur fille. Ils entendent dans la salle une étrangère qui s'est mariée pour la fortune et pour hériter de tout. Elle en prend pour 20 ans de prison ferme. Les parents sont effondrés, vont chez le procureur et lui demandent de réviser le procès, de faire quelque chose. Le procureur leur dit « Non, je ne peux rien faire, c'est trop grave pour une révision de grâce, demande de grâce. Non, c'est trop grave ce qu'elle a fait. C'est vie menée dans une prison moderne et froide, en plein désert. Les parents effondrés retournent à Lyon. En France, heureusement, cette affaire n'a pas eu de bruit. C'est loin, Sydney. Et puis, ce n'est qu'une affaire criminelle, comme il y en a beaucoup. À Lyon, personne n'en parle, mais peut-être qu'on le sait. Le temps passe, et malgré tout, la vie reprend, et d'autres problèmes apparaissent. Le père se demande pourquoi on lui a enlevé le cadavre du mur. Et celui ou ceux qui l'ont fait ne lui disent rien. Ils m'ont débarrassé d'un lourd
du mur de pierre, et en même temps, ne demande rien en échange.
Elisabeth fait venir chez elle un représentant de son assurance pour réviser son assurance vie. L'assurance lui en vend un de ses jeunes représentants, un jeune homme grand, mince, cheveux châtains, les traits du visage très fins, fait assez élégant, porte un costume bleu roi et un cartable noir. Elisabeth l'a fait mener au salon. Puis elle va le rejoindre. Et surprise de voir ce jeune homme, surprise et éblouie par sa beauté.
Bonjour monsieur, je suis Elisabeth Kraft. C'est moi qui vous ai fait venir. Asseyez-vous, je vous en prie.
Il s'assoit sur une chaise qu'elle lui a indiquée. Et elle s'assoit sur celle qui est en face de la sienne.
D'habitude, c'est M. Durand qui vient me rendre visite. Il est malade.
Non, madame, il a pris sa retraite et je le remplace. Je suis M. Benoît Alain. Mais ne craignez rien. J'ai lu votre dossier.
Oui, il l'a lu. Et il sait qu'elle est très riche. Elle le trouve extrêmement séduisant. Il a un sourire et un corps.
Je vous ai fait venir, c'est pour que vous changiez une chose à mon assurance-vie. J'aimerais, c'est que vous remplaciez ce que je donnais à Sylvie, ma fille, je le donne à Denis, mon jeune garçon.
Oui, parce que ma fille, malheureusement, est en Australie et pour longtemps, hélas. Et malheureusement, elle ne pourra pas se servir de cet argent, vu où elle est.
Bien, madame, cela se fera.
Oh, la vie n'est pas facile. Vous avez des enfants.
Il sourit, lui dit. Je suis encore jeune pour fonder une famille.
Oui, bien sûr, vous êtes si jeune. Comme vous avez de la chance.
Vous aussi, madame, vous êtes jeune, et... Elle sourit, lui dit.
Pas aussi jeune que ça. Vous désirez boire?
Oui, merci.
Un bourbon, whisky?
Un bourbon.
J'ai cru que vous alliez dire whisky comme dans les films. Les assureurs et les détectives prennent toujours du whisky.
Moi, non.
Elle se lève pour aller prendre dans le bar la bouteille et le verre. Elle va y déposer sur la table basse où se trouve le jeune homme.
Et serre.
Puis elle se rassoit. En remontant bien sa jupe,
lui le voit. Elle lui demande, vous vivez seul?
Oui, et je mène une vie bien sage.
Remarquez, j'ai pas de mérite. Vu l'argent que je gagne, je ne peux pas faire des folies.
Nous sommes très mal payés, vous savez.
Je comprends, mais peut-être est-ce que les choses s'arrangeront.
Il hausse ses épaules. Bois par petites gorgées, le corps légèrement avachi, les jambes écartées. Il a une façon de la regarder qui lui donne des frissons.
Elle a des difficultés à rester en place. Ses mains bougent tout le temps.
Je ne m'en vais tout de même pas me mettre à désirer un agent d'assurance.
Puis, pour laisser cette tension, elle se lève et dit
« Malheureusement, je ne peux vous garder plus longtemps. J'ai affaire. »
Il pose son verre, se lève,
vous, je comprends.
Elle le mène jusqu'à la sortie.
Au revoir, monsieur, et merci de vous être déplacé.
De rien, madame. C'est mon travail. Si quelque chose ne va pas, je me permettrai de vous téléphoner. Et il a dit. Il se plaque le dos contre la porte qui vient de se refermer.
Il faut absolument que j'arrête de m'exciter. Je deviens complètement folle.
Et décide de prendre un bain pour se détendre. Semaine plus tard. Elle reçoit un appel téléphonique.
Allô, j'écoute.
Madame, je suis votre agent d'assurance, Monsieur Benoît. Vous vous souvenez de moi?
Oui, bien sûr.
Eh bien, j'ai simplement oublié, c'est de vous faire signer certains papiers. Pouvez-vous venir les signer, s'il vous plaît, demain, au siège à 18h?
Oui, je viendrai.
Bien, au revoir, madame. Merci, et à demain.
Au revoir, et à demain, mon petit.
De soirée, elle se rend au siège de l'assurance qui se trouve dans un grand immeuble moderne, cours Lafayette, pas très loin de la rue Garibaldi. Elle entre dans le hall et demande à l'accueil.
Monsieur Benoît, 7e étage, porte A, ascenseur, impair.
Merci. Elle y va.
À la porte du bureau.
Entrez.
Elle entre.
Dès qu'il la voit, il se lève. Bonjour, madame Scrap. Merci d'être venue. Asseyez-vous, je vous en prie.
Elle s'assoit.
La pièce est vaste, claire, mur blanc. Le bureau a le plateau en verre et il y a un placard qui en sort.
Je m'excuse de vous faire venir, mais j'ai un travail très chargé.
C'est pas grave.
Il lui sourit. Elle le trouve très séduisant.
Voilà, nous avons oublié, c'est de signer le papier comme quoi vous avez fait ce changement à votre testament.
Il sort un papier de son classeur.
Voulez-vous bien signer?
Elle se soulève, prend le papier,
le lit, il lui tend le stylo à plume,
elle signe.
Eh bien voilà, nous sommes à jour.
Oui.
Elle se lève, il se lève.
Partez déjà?
Oui, je dois rentrer, j'ai affaire.
Bien, j'ai pensé que nous pourrions boire un verre quelque part.
Elle est surprise de cette invitation.
Ses yeux pétillent, car elle se dit que peut-être s'il...
Merci, mais je n'ai pas le temps.
Vous êtes venu en voiture?
Non, en taxi.
Si vous permettez, je peux vous accompagner jusqu'à chez moi.
Merci, j'accepte.
Elle se dit comme ça, elle restera un peu plus longtemps avec lui.
Et ils sortent du bureau. Il l'amène vers l'ascenseur.
Vous savez, nous sommes les derniers à sortir. Tout le monde est parti.
De toute façon, j'aurais été obligé de vous raccompagner, car la porte est fermée. Nous sommes que nous deux. Comme dans une île déserte.
Vous voulez me donner du frisson ?
Il sourit, ouvre l'ascenseur, la fait entrer.
Seul dans cet ascenseur, avec lui, cela lui fait quelque chose. Il est près d'elle. Elle ne peut s'empêcher de le regarder la tête aux pieds. Elle voit que ses yeux sont le mouvement des siens et qu'il passe en revue. Il voit qu'il desserre les jambes lorsqu'elle a les yeux sous le bas-ventre. Puis, il se donne un coup sec avec sa main à son sexe, comme s'il avait une grande érection. Il sourit. Ce sourire lui dit qu'il a vu, qu'elle a vu le geste. Était-ce un signe ? On ne sait jamais avec les hommes. Mais elle ne sait pas. Elle parle, en perd l'équilibre. Ce qui l'a fait plaquer la paroi à l'ascenseur. Il se penche vers elle et avec une main, en même temps, appuie sur l'arrêt de l'ascenseur. Et d'un seul coup, l'embrasse sur les lèvres, en lui caressant le ventre. Elle se laisse faire, prise de vertige, vite. Il lui en profite pour lui soulever la jupe. Lui descend son slip. Elle palpite, se tortille tellement qu'elle est prise. Une fois que le slip est descendu, et la main entre les jambes, il se déculotte. Puis, la prend comme ça, debout. Elle a le dos contre la paroi. Elle s'agrippe à lui. Que la chose est finie, il prend son mouchoir, se nettoie, et se reculotte. Elle en fait autant. Se donne un coup dans les cheveux pour se les remettre en place et soupire. Elle sourit en coin et semble satisfaite. Il la rappuie sur le bouton pour remettre l'ascenseur à route. Elle lui demande « Pourquoi ?»« Parce que j'en avais envie. Vous m'avez plu dès les premières minutes. Je me suis dit que je devais faire le tout pour le tout, que c'était ma seule chance. C'est pas facile de séduire une cliente parce qu'on la désire.
Je vous plais d'autant que ça.
Oui, et si vous en voulez encore la preuve, je peux recommencer. Ils sont arrivés au parking, sortent de l'ascenseur. Ils l'amènent vers la voiture. La fait entrer. Entrer. Elle entre. Et lui rentre aussi.
une fois dehors, il lui demande : vous voulez qu'on passe encore un moment chez moi ?
Non, je ne peux pas.
Nous reverrons ?
Pourquoi pas ?
J'habite rue du Doyenné, dans un vieil immeuble, numéro 5. Il prend de sa poche une carte de visite et la lui tend. Je suis chez moi vers les 20h. Vous viendrez ? Elle ne répond pas. Et il la dépose vers chez elle.
Au revoir et merci.
Et la voiture est repartie. Arrivée dans sa chambre, elle a la tête qui tourne et repense à tout ce qui s'est passé. Les jours passent, elle pense sans arrêt à son aventure. Elle ne peut rien faire. Elle sent encore ses mains sur son corps contre elle. Elle a envie de le voir, de l'avoir complètement à elle. Après une semaine de bouffée de chaleur, elle décide d'aller le voir.
Il m'a donné son adresse. Si je vais le voir, c'est bien qu'il le veut.
Donc, elle va le voir chez lui. La rue où il habite est la rue Doyenné. C'est une vieille rue. Étroite, lépreuse. Elle sent une odeur de misère. Son immeuble, hein, est sans âge. Mais, comme tous ceux de sa rue, il a 3 étages. L'allée est un trou noir et humide. Les escaliers étroits, une lampe pendue dans l'entrée. Elle voit aux boîtes aux lettres disparates qu'il habite au 3e étage, prend les escaliers et monte. Les escaliers ne sont pas éclairés. À part les paliers, l'allée est noire. Arrivé au 3e étage, devant sa porte, elle hésite.
Que va-t-il penser de moi ?
Tout à coup, la porte s'est ouverte. C'est lui. Ah, c'est toi ? Entre. Il est en t-shirt blanc et jean. C'est qu'il aura encore plus jeune. Enfin, vraiment jeune, elle se dit.
On dirait qu'il a l'âge de mon fils Denis. Mais qu'il est mignon, et ce sourire.
Elle entre. Il ferme la porte. J'ai cru entendre du bruit. C'est ce qui m'a fait ouvrir la porte. Elle lui sourit et regarde autour d'elle. C'est un studio assez grand, avec un coin où il y a un lit à 2 places d'effet, un coin salon avec un canapé, dessus une couverture verte et 2 chaises plus une table basse. Le canapé est plein de vêtements en désordre et le coin cuisine, c'est-à-dire évier, réchaud à gaz et petite table. Bien entendu, la vaisselle n'a pas été faite depuis plusieurs jours.
Radio Canus a présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, film intérieur, dont c'était la 41e partie. Production mise en scène Julien Jean-Pierre.